Bonjour, Normand Hébert à l'antenne de Radio Victoria 107,9 FM. Vous êtes à l'émission Paysages littéraires. La dernière émission, nous avons parlé du roman de Louis Aymon, l'auteur Louis Aymon, dont le titre est Maria Chapdelaine. J'ai mis en situation le roman qui se passe au début du 20e siècle, dans les années 1910-1915, si on veut se situer dans le temps. Et on a parlé de trois personnages importants, de Samuel Chapdelaine, Laura Chapdelaine, sa conjointe, et leur fille Maria Chapdelaine, dont le titre du roman porte son nom. Donc, je poursuis, et là, on va se retrouver dans une situation où la maladie menace la famille. Ça va vous guérir, Madame Chapdelaine, sûr comme il y a un bon Dieu. C'est un remède de première classe. Mon frère l'a fait venir des États exprès. Vous ne trouveriez pas un remède comme ça au magasin de la pipe, sûrement. Ça ne peut pas la rendre pire? Interrogea Maria avec un reste de crainte. Ce n'est pas du poison ni une affaire de même. Tous les hommes protestèrent ensemble avec une sorte d'indignation. Faire du mal, des petites pilules pas plus grosses que ça? Voyons. Mon frère en a mangé quasiment une boîte et il a dit que c'est du bien que ça lui a fait. Quand Eutrope partit, il laissa les pilules derrière lui. La malade n'avait pas encore consenti à en prendre, mais sa résistance diminuait de force à chaque fois. Elle en prit deux au milieu de la nuit, deux autres au matin, et pendant les heures qui suivirent, tout le monde attendit avec confiance que la magie du remède opéra. Mais vers midi, il fallut se rendre à l'évidence, elle souffrait toujours autant et continuait à se plaindre. Au soir, la boîte était vide, et quand la nuit tomba, les gémissements de la malade remplirent la maison d'une tristesse angoissée. Maintenant, surtout que l'on n'avait plus de remède en quoi l'on put espérer. Maria se leva deux ou trois fois, émue des plaintes plus fortes. Chaque fois, elle trouvait sa mère dans la même position, couchée sur le côté dans une immobilité qui semblait la faire souffrir et la raidir un peu plus d'heure en heure, et toujours se lamentant bruyamment. « Quoi que c'est, sa mère ?» demandait Maria. « Ça va-t-il mieux ?»« Oh, mon doux, que je pâtis !»« Que je pâtis donc !» répondait la malade. « Je peux plus grouiller, plus en tout, et ça me fait mal tout de même. Donne-moi de l'eau frette, Maria, j'ai soif à mourir. » Maria lui donna à boire plusieurs fois, mais finit par concevoir des craintes. Ça n'est peut-être pas bon pour vous de boire tant de ça, sa mère. Tâchez d'endurer votre soif un peu. C'est pas endurable, je te le dis. La soif et puis le mal que j'ai dans tout le corps et la tête qui me brûle. Oh mon doux, c'est certain que je vais mourir. Un peu avant le jour, elles s'assoupirent tous les deux, mais Maria fut bientôt réveillée par son père, qui lui secouait l'épaule et parlait à voix basse. « Je vais atteler, dit-il. J'irai à Mistouk pour chercher le médecin et en passant à La Pipe, le village, je vais parler à monsieur le curé aussi. » C'est épeurant de l'entendre se lamenter de même. Les yeux ouverts dans la clarté blafarde de l'aube, Maria prêta l'oreille au bruit du départ. La porte de l'écurie battant contre le mur, les sabots du cheval sonnant mât sur les madriers de l'allée, des commandements étouffés. « Oh là! Alliez! Alliez donc! Oh! » Puis le tintement des grelots de l'attelage. Dans le silence qui suivit, la malade gémit deux ou trois fois, mais sans se réveiller. Maria regarda le jour pâle emplir la maison et songea au voyage de son père, s'efforçant de calculer les distances. De chez eux au village, de Honfleur, 8 000. De Honfleur au village La Pipe, 6. À La Pipe, son père parlerait à M. le curé et puis il continuerait vers Mistouk. Elle se reprit et au lieu du vieux nom indien que les gens du pays emploient toujours, elle donna au village son nom officiel, celui dont l'avaient baptisé les prêtres, Saint-Cœur-de-Marie. De La Pipe à Saint-Cœur-de-Marie, 8 autres milles. 8 et 6 et 8 encore. Elle s'embrouilla et dit à voix basse, « Ça fait loin, toujours. » Et les chemins seront méchants. Une fois de plus, elle ressentait un effarement tragique en songeant à leur solitude dont elle ne se souciait. Elle ne se souciait guère autrefois. C'était bon quand tout le monde était fort et joyeux et qu'on n'avait pas besoin d'aide, mais qu'un peu de chagrin vint, une maladie, et le bois qui les entourait semblait resserrer sur eux sa poigne hostile pour les priver des secours du monde, le bois et ses acolytes, les mauvais chemins où les chevaux enfoncent jusqu'au poitrail, les tempêtes de neige en plein avril. Sa mère tenta de se retourner dans son sommeil, s'éveilla en poussant un cri aigu de douleur et aussitôt recommença à gémir sans répit. Maria se leva et alla s'asseoir près d'elle, songeant à la longue journée qui commençait, au cours de laquelle elle n'aurait ni conseil ni aide. Elle ne fut qu'une longue plainte, cette journée, un long gémissement sans fin qui venait du lit où gisait la malade et hantait l'étroite maison de bois. De temps en temps se mêlaient à cette lamentation quelques bruits domestiques. La vaisselle entrechoquée, la porte du poêle de fonte ouverte avec un claquement, des pas sur le plancher, Tibé rentrant dans la maison doucement, inquiet et gauche, pour prendre des nouvelles. « Ça va-t-il point mieux ?» Maria secouait la tête. Ils restaient tous les deux immobiles quelques secondes, regardant la forme immobile sous les couvertures de laine brune, prêtant l'oreille aux plaintes. Puis Tibé sortait de nouveau pour vaguer aux menues besognes du dehors. Maria achevait de mettre la maison en ordre et recommençait ensuite son guet patient, que des gémissements plus perçants venaient parfois interrompre comme des reproches. D'heure en heure, elle reprenait son calcul de temps et de distance. Son père doit être pas loin de 5 heures de Marie. Si le médecin est là, ils vont laisser le cheval reposer une couple d'heures et ils partiront ensemble. Mais les chemins doivent être méchants. Au printemps de ce temps ici, c'est quasiment pas passable des fois. un peu plus tard. Ils doivent être partis. Peut-être bien qu'en passant à la pipe, ils s'arrêteront pour parler à monsieur le curé. Ou bien encore, il sera venu de suite dès qu'il aura su, sans les attendre. Il peut arriver dans aucun temps. Mais la nuit approcha sans amener personne, et vers 7 heures seulement, des grelots se firent entendre au dehors. C'était le père Chapdelaine et le médecin qui arrivaient. Ce dernier entra dans la maison seul, posa son sac sur la table et commença à retirer sa pelisse en grognant. Avec des chemins de même, dit-il, c'est pas qu'une petite affaire de venir voir des malades. Et vous êtes venu vous cacher dans le bois apparemment, le plus loin que vous avez pu? Batèche! Vous pourriez bien tous mourir sans que personne vienne en aide. Il se chauffa quelques secondes au poêle, puis s'approcha du lit. Voilà pour le premier segment de l'émission de Paysages littéraires, le roman de Maria Chapdelaine. Nous poursuivons dans le segment 2 de cette émission dans quelques instants. À très bientôt. S'est quitté tantôt, le médecin venait tout juste d'arriver, et alors nous poursuivons. Eh bien, la mère, on se met à être malade, tout comme les gens qui ont le moyen. Mais après un premier examen, il cessa de plaisanter. Elle est malade pour de bon, je crie. C'était sans affectation qu'il parlait comme les paysans. Son grand-père et son père avaient travaillé la terre et lui n'avait quitté la campagne que pour faire ses études de médecine à Québec. Parmi d'autres garçons semblables à lui pour la plupart, petits-fils sinon fils de cultivateurs, qui avaient tous gardé des manières frustes de villageois et le lent parler héréditaire. Il était grand et massif, moustachu de gris. Et sa figure épaisse avait toujours une expression un peu gênée de bonne humeur, arrêtée court par l'annonce d'un chagrin d'autrui auquel il devait faire semblant de compatir. Le père Chapdelaine, ayant dételé et soigné son cheval, rentra dans la maison à son tour. Il s'assit à distance, respectueuse avec ses enfants, pendant que le médecin remplissait ses rites. Ils pensaient tous, maintenant on va savoir ce que c'est il va lui donner de bons remèdes. Mais quand l'examen fut fini, au lieu d'avoir recours de suite au filtre de son sac, il resta hésitant et se mit à poser des questions sans fin. Comment cela avait commencé et de quoi elle se plaignait surtout? Si elle avait déjà souffert du même mal? Les réponses ne semblèrent pas l'éclairer beaucoup. Alors il s'adressa à la malade elle-même, mais n'obtint d'elle que des indications vagues et des plaintes. Si ça n'est rien qu'un effort qu'elle s'est donné, fit-il, à la longue, elle guérira toute seule. Elle n'a qu'à rester au lit sans bouger. Mais si c'est une lésion dans le milieu du corps, au rognon ou ailleurs, ça peut être méchant. Il sentit confusément que le doute où il restait plongé désappointait les Chapdelaine. Il voulut rétablir son prestige. Des lésions internes, c'est grave. Et on ne peut rien y voir. Les plus grands savants du monde ne pourraient pas vous en dire plus long que moi. Il faut attendre. Mais ça n'est peut-être pas ça. Il recommença son examen et secoua la tête. Je peux toujours lui donner quelque chose pour l'empêcher de pâtir de même. Le sac de cuir révéla enfin ses fioles mystérieuses. 15 gouttes d'une drogue jaunâtre tombèrent dans 2 doigts d'eau que la malade soutenue but avec force plainte aiguë. Après cela, il ne restait apparemment qu'à attendre encore. Les hommes allumèrent leurs pipes et le docteur, les pieds contre le poêle, parla de sa science et de ses cures. « Des malades de même, dit-il, qu'on ne sait pas bien ce que c'est plus badrant pour un médecin qu'une affaire grave. Ainsi, la pneumonie ou bien la fièvre typhoïde, les 3/4 des gens de par ici, hormis qu'ils meurent de vieillesse, ce sont ces 2 maladies-là qui les tuent. Eh bien, la fièvre typhoïde et la pneumonie, j'en guéris tous les mois. Vous connaissez bien Viateur Tremblay, le maître de poste de Saint-Henri. Il paraissait un peu offensé que la mère Chapdelaine fût atteinte d'un mal obscur, au diagnostic difficile et non d'une des 2 maladies qu'il traitait avec le plus de succès, et il conta par le menu, comment il avait guéri le maître de poste de Saint-Henri. La mère Chapdelaine cessa de se plaindre et parut s'assoupir. Le médecin jugea donc qu'il avait fait ce qu'on attendait de lui, tout au moins pour un soir, vida sa pipe et se leva. « Je vais aller coucher à Honfleur, dit-il. Votre cheval est bon pour me mener jusque-là, hein? Vous n'avez pas besoin de venir, vous. Je connais le chemin. Je vais passer la nuit chez Ephraim Surprenant et je reviendrai demain dans l'avant-midi. » Alors, je poursuis un peu plus loin. Seulement, si elle pâtit bien fort, à crier, et jamais plus de 15 gouttes à la fois, et ne lui donnez pas d'eau frette à boire. Voici ce qu'étaient les conseils du médecin avant son départ. Elle les reconduisit jusqu'au seuil, la fiole à la main. Au moment de monter dans la carriole, le curé de Saint-Henri la prit à part et lui dit quelques mots à son tour. Les médecins font ce qu'ils peuvent, dit-il, avec simplicité. Mais il n'y a que le bon Dieu qui connaît les maladies. Priez fort, et je dirai la messe pour elle demain. Oui, une grande messe avec chant, c'est entendu. Pour la première fois, les marques profondes que la maladie avait creusées sur le visage de la mère Chapdelaine parurent à son mari et à ses enfants être autre chose que des signes passagers de douleur. L'empreinte définitive de la dissolution qui venait. Les soupirs profonds et en vérité pareils à des râles qui sortaient de son gosier devinrent non plus une expression consciente de souffrance, mais la dernière protestation instinctive d'un organisme que déchirait l'approche de la mort. Et une peur nouvelle leur vint à tous, presque plus forte que leur peur de la perdre. « Vous ne pensez pas qu'elle va mourir avant que M. le curé revienne ?» demanda Maria. Tisseb, un des fils, eut un geste d'ignorance. « Je ne peux pas dire. Si votre cheval n'est pas trop fatigué, vous feriez bien d'aller le chercher dès qu'il fera jour. » Les regards se tournèrent vers la fenêtre, qui n'était encore qu'une plaque noire, et de là revinrent vers la malade. Une femme forte et courageuse, qui avait toute sa santé et toute sa connaissance 5 jours plus tôt. Sûrement, elle n'allait pas mourir aussi vite que cela. Mais maintenant qu'il savait l'issue triste et inévitable, chaque coup d'œil révélait un changement subtil, quelques signes nouveaux qui faisaient de cette femme couchée, aveuglée et gémissante, une créature toute différente de leur femme et de leur mère qu'ils avaient connue si longtemps. Une demi-heure passa. Le père Chapdelaine se leva brusquement après un nouveau regard vers la fenêtre. « Je vais atteler, » dit-il. Tisseb hocha la tête. « C'est correct, vous ferez aussi bien d'atteler. Le jour va venir. Demain, M. le curé sera ici pour midi. » Maria soupira encore, mais son cœur avait trouvé dans la certitude et dans l'attente de la mort une sorte de sérénité triste. La maladie obscure, l'inquiétude de ce qui pouvait venir, c'était des choses qu'on combattait à l'aveuglette, sans trop les comprendre, des choses vagues et terrifiantes comme des fantômes. Mais devant la mort inévitable et prochaine, ce qui restait à faire était simple et prévu depuis des siècles par des lois infaillibles. Monsieur le curé venait, que ce fût le jour ou la nuit, il venait de loin, apportant le Saint-Sacrement à travers les rivières torrentielles du printemps, sur la glace traîtresse, par les mauvais chemins emplis de neige, en face d'une roi cruelle. Il venait sans jamais manquer, escorté de miracles. Il faisait les gestes consacrés, et après cela, il n'y avait plus de place pour le doute ou la peur. La mort devenait une promotion auguste, solennelle, une porte ouverte sur la béatitude inimaginable des élus. La maison de bois frissonnait du sol à la cheminée et semblait osciller sur sa base, si bien que ses habitants, entendant les mugissements et les clameurs aiguës du vent, sentant tout autour d'eux l'ébranlement de son choc, souffraient en vérité de presque toute l'horreur de la tempête. Oui, une tempête. N'ayant pas cette impression d'asile sûr que donnent les fortes maisons de pierre. Tisseb regarda autour de lui. C'était une bonne maison que vous avez là, pareil, bien étanche et chaude. C'est-y votre père et les garçons qui l'ont levée? Oui, et de même vous devez avoir pas mal grande terre faite à cette heure. Oh, la certitude, le contentement d'une promesse auguste qui dissipe le brouillard redoutable de la mort. Pendant que le prêtre accomplissait les gestes consacrés et que son murmure se mêlait au soupir de la mourante, Samuel Chapdelaine et ses enfants priaient sans relever la tête, presque consolés, exempts de doute et d'inquiétude, sûrs que ce qui se passait là était un pacte conclu avec la divinité, qui faisait du paradis bleu semé d'étoiles d'or un bien légitime. Après que le curé de Saint-Henri se chauffa au poêle, puis ils prièrent encore quelque temps ensemble, à genoux près du lit. Vers 4 heures, le vent sauta au sud-est. La tempête s'arrêta aussi brusquement qu'une lame qui frappe un mur. Et dans le grand silence singulier qui suivit le tumulte, la mère Chapdelaine soupira 2 fois. Et mourut. Sur ces mots, je vous laisse. C'était Paysage littéraire, le second épisode de Maria Chapdelaine, de l'auteur Louis Aymon. Merci à tous et à toutes, et à bientôt. Thank you.